Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Luca Lazo, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. Au pouvoir depuis 10 ans en Inde, Narendra Modi brigue un troisième mandat à l'occasion des élections générales qui commencent vendredi. L'occasion d'une série sur la décennie Modi. Nous évoquerons demain les classes moyennes indiennes, les déçus de la croissance. Mercredi, le crépuscule d'un certain modèle agricole. Jeudi, les ambitions de Delhi dans l'océan Indien. Aujourd'hui, comment le BJP au pouvoir est devenu un parti État? Les opposants n'ont plus que de l'huile de coude pour faire campagne.
All our bank accounts.
Tous les comptes bancaires du parti du Congrès ont été gelés. Nous ne pouvons plus organiser aucun défilé. Nous ne pouvons plus défendre notre cause, plus soutenir nos candidats. Nos dirigeants ne peuvent plus prendre l'avion pour se déplacer dans tout le pays. Ils ne peuvent même plus prendre le train.
La loi sur le financement des campagnes est faite pour enrichir le BJP. Elle n'est absolument pas pensée pour faciliter la vie démocratique. En fait, son appellation est un abus de langage. Cette loi n'a rien à voir avec la tenue des élections. Elle a en revanche tout à voir avec les liens entre le secteur privé et le gouvernement. Enfin, le BJP. C'est tout ce dont il s'agit.
Je sens l'humeur de notre pays. Notre alliance va atteindre la barre des 400 députés. Et le BJP à lui seul va remporter 370 sièges. Je vous promets que durant ce troisième mandat, l'Inde va devenir la troisième puissance économique mondiale.
Un troisième mandat et un gouvernement majoritaire stable pour aider l'Inde à traverser des temps incertains, demandait Narendra Modi hier en commentant l'attaque de drones et de missiles de l'Iran sur Israël. À 5 jours des élections générales, le Premier ministre sortant présentait le programme électoral de son parti, le BJP pour la capitale New Delhi. Le BJP qui vise donc les 400 sièges à la chambre basse du Parlement, 400 sur 543, soit les 2/3 requis pour pouvoir par la suite réformer la Constitution. Si l'Inde est bien le pays le plus peuplé au monde, en est-elle toujours la plus grande démocratie? En février, les comptes bancaires du parti du Congrès, principale force d'opposition, étaient gelés. Un mois plus tard, Arvind Kejriwal, voix importante de l'opposition au BJP, s'est retrouvé en prison. En 10 années d'exercice du pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi est parvenu à mettre institutions et administration au service de son intérêt politique et construit un système où les intérêts de l'État et de son parti se confondent. S'il sort vainqueur des élections générales, comment Narendra Modi pourrait-il durablement transformer le système politique indien? Cette échéance électorale va-t-elle permettre au BJP d'asseoir encore un peu plus l'idéologie nationaliste hindoue qu'il défend? Nous en parlons ce matin avec 2 invités. Bonjour Vaidhuna Ravane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour The Wire, média indépendant indien. Bonjour Christophe Jaffrelot.
Bonjour.
Merci et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CERI Sciences Po et auteur de L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique, paru aux éditions Fayard. Peut-être d'abord un petit point logistique. Christophe Jaffrelot, on est à 4 jours du début du scrutin. Le million de bureaux de vote est fonctionnel. D'après vous, est-ce que les 15 millions d'agents électoraux, par exemple, sont mobilisés? Les machines électroniques disposées partout dans le pays?
Certainement, c'est effectivement pour cela d'ailleurs que l'élection s'étendra sur 6 semaines. L'ampleur de l'exercice est considérable. Ceci dit, cette extension du temps passé à voter est quand même un petit peu suspecte, parce que jusqu'à présent, pour un nombre assez comparable d'électeurs, on se contentait de quelques jours, même parfois quelques semaines de moins. Donc on va certainement avoir une logistique qui sera mise au service du pouvoir et notamment de Narendra Modi qui pourra ainsi faire des tournées dans le pays aussi longtemps que c'est nécessaire.
Pendant le vote, d'après vous ?
Pendant le vote, probablement, évidemment.
Donc une organisation, dites-vous, suspecte. Le temps, c'est vrai, la durée du vote s'est étalée sur plusieurs semaines. Les machines électroniques attisent les soupçons cette année, pourquoi ?
Ben, pas que cette année, hein. Ça fait longtemps que l'on soupçonne ces machines d'être trucables. D'ailleurs, il y a eu des démonstrations de la façon dont on pouvait les truquer. Des ingénieurs informaticiens en ont fait la démonstration, hein. Et surtout, ce qui alimente le soupçon, c'est le refus de la commission électorale électorale de permettre de vérifier les votes. Il y a un système de vérification qui est possible. Et depuis maintenant des années, l'opposition demande à ce que ce système, ce dispositif, soit mis en œuvre. Et systématiquement, on refuse, ce qui évidemment suscite beaucoup de suspicions. Un dernier point, des chercheurs ont démontré que dans les circonscriptions où la marge du BJP était assez limitée, on avait probablement empêché certains de voter, voire on n'avait pas décompté leur vote. Donc on a tout un faisceau de facteurs qui semblent accréditer l'idée que parfois l'élection est truquée.
Avant de faire ajouter Faïjou Naravani sur ces points-là, peut-être juste un mot sur les machines électroniques, parce que c'est vrai que quand aux États-Unis Donald Trump dit que le vote électronique est truqué, que de toute façon ces machines peuvent être truquées, on dit qu'il est fou. Mais quand en Inde on le dit, on dit que c'est crédible. En Inde en particulier, ces machines sont plus sujettes à des fraudes.
On ne sait pas si c'est plus en Inde qu'ailleurs. Beaucoup de pays reviennent au vote manuel, finissent par considérer que c'est plus sûr, et ne serait-ce que parce qu'on peut recompter les bulletins. Recompter les bulletins, c'est ce qu'on fait dans pratiquement tous les pays lorsque, au final, le résultat est très serré. Là, on ne peut pas recompter les bulletins.
Faïjou Naravani, il y a bien en Inde une commission électorale chargée de valider les résultats. Jusqu'à présent, elle fonctionnait plutôt bien ou pas? Et pourquoi cette année, dit-on qu'elle ne fonctionnera pas de toute façon, cette commission électorale?
Oui, cette commission électorale est censée d'être indépendante. Et en fait, dans le passé, on a eu comme Tian Shishan ou Lavassa des commissaires électoraux qui étaient absolument remarquables, qui ne laissaient pas passer des paroles de la haine, des choses. Quand c'était un cas douteux, ils demandaient qu'il y ait un recomptage des voix. Mais cette fois-ci, c'est la manière de choisir les commissaires électoraux qui est suspecte, parce que ça a été changé. D'ailleurs, Narendra Modi change à son gré les règlements qui chapeaute telle ou telle nomination. Et donc, la Cour suprême était censée d'avoir une voix dans l'élection des représentants. Et d'ailleurs, il y en a trois. Un poste était vacant et l'autre a démissionné 2 jours avant qu'on annonce la tenue des élections, qui était aussi suspecte parce qu'on ne sait pas s'il y a eu beaucoup de désaccords à l'intérieur parmi les 2 membres avec le gouvernement. Et puis, on a reçu cette déclaration qu'il y a eu ces membres qui ont été élus, qui ont des liens avec le BJP, c'est clair. Et puis le système d'élection, de nomination n'a pas été respecté.
Donc en effet, ce collège compte 5 représentants, 2 membres de la société civile, 1 qui est issu du gouvernement et 1 de l'opposition et 1 de la Cour suprême. Et une loi adoptée par le Parlement en décembre dernier donne un avantage au gouvernement dans le choix des commissaires de cette commission électorale. Alors il y a ces circonstances, on va dire, conjoncturelles, Christophe Jaffrelot. Plus structurellement, l'opposition, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Cette alliance India, elle rassemble combien de partis d'opposition? C'est énorme autour du parti du Congrès qui est le noyau dur.
Oui, entre 28 et 30, il y a une espèce de marge d'erreur qui est liée au fait que c'est une coalition assez lâche, mais qui, c'est vrai, pour la première fois, regroupe quand même des forces nationales, comme le Congrès, et régionales, en très grand nombre. Tous les pays où un homme fort s'est imposé en sont venus à ça. L'opposition fait bloc. On l'a vu en Turquie, toute l'opposition s'est regroupée contre Erdogan. On l'a vu en Pologne, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Israël. Il y a un moment où, en 5, 10, 15 ans, l'opposition prend la mesure du défi et serre les rangs. Alors, dans le cas indien, l'inconnu, qui va bientôt être levé, c'est le nombre de circonscriptions où il n'y aura qu'un candidat de l'opposition face au candidat du BJP. C'est un mode de scrutin à un tour. Des triangulaires où il y a 2 candidats de l'opposition face à celui du BJP donnent un avantage au BJP de façon considérable. Si on a beaucoup de circonscriptions où c'est l'opposition unie contre le BJP, on peut faire bouger le curseur, car nous sommes dans des régimes où l'homme fort doit prendre le risque de l'élection. Et c'est ça qui fait la différence entre la Turquie, l'Inde, Israël et la Russie ou la Chine. C'est deux catégories de régimes bien différents. Il faut prendre le risque d'élection parce que il faut que l'homme fort en question puisse dire « je suis le peuple, j'ai un mandat populaire ». Il y a un risque qui est cette fois-ci différent du fait de l'unité à vérifier de l'opposition.
Unité à vérifier, notamment pour éviter à tout prix les triangulaires. On verra comment l'opposition mène des accords. On verra si elle est suffisamment unie. Mais ces accords ne se font qu'au dernier moment, souvent. Donc on ne sait pas exactement dans quelle circonscription, là où c'est le plus compliqué. Ce qu'on sait, c'est que certains membres de l'opposition ont été arrêtés. C'est le cas d'Arvind Kejriwal, l'ex-ministre en chef de Delhi, qui a été arrêté en mars, emprisonné pour corruption dans une histoire de licence d'alcool. On avait fait une émission sur l'alcool en Inde dans Culture Monde. Quand ils ne sont pas prohibitionnistes, les États fédérés ont le pouvoir de délivrer des licences pour distiller, distribuer et vendre l'alcool. Arvind Kejriwal est accusé d'avoir accordé des autorisations contre de l'argent.
Monsieur Arvind Kejriwal nous cache la vérité. Toutes ces déclarations nous maintiennent dans l'ignorance et le doute. Sous ses ordres, deux ministères locaux et leurs fonctionnaires ont enfreint la loi. Ils se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. S'il se contente de dire qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé en matière de délivrance des licences d'alcool, cela signifie qu'il laissait agir ses ministres sans leur donner aucune instruction. Ou alors, il ment car il a peur de dire la vérité. Dans les deux cas, l'enquête semble indiquer que quelque chose n'a pas bien fonctionné. En se limitant à critiquer le Premier ministre Modi, M. Arvind Kejriwal ne pourra se soustraire aux questions auxquelles il doit répondre pour faire la lumière sur les circonstances de l'arnaque qui s'est déroulée à Delhi alors qu'il était en poste.
C'est le porte-parole du BJP qui s'exprime ici sur l'arrestation d'Arvind Kejriwal. Est-ce qu'on peut imaginer, Vaidyanarayanan, que cet opposant sera jugé d'ici vendredi? A priori, il y a peu de chance. Et comment, quand des membres de l'opposition doivent être intimidés ou disqualifiés pour les élections, de quelle façon le sont-ils? C'est-à-dire que ça ne passe pas que par des arrestations.
Non, en fait, un des armes dans l'arsenal du gouvernement pour contrôler l'opposition, c'est l'enquête financière.
Et les contrôles fiscaux.
Les contrôles fiscaux, ça c'est un. L'autre, c'est la loi absolument draconienne contre le terrorisme et on appelle ça les pratiques illégales. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi dans ce panier de pratiques illégales. En plus, la police a le droit de détenir derrière les barreaux des gens pendant très très longtemps. Et souvent, ils ne sont pas sous l'obligation de produire des preuves devant le magistrat quand la personne emprisonnée demande d'être relâchée sous caution. Parce que la police dit non, c'est tellement une question de sécurité nationale qu'on peut pas vous dévoiler les preuves. Et donc, le juge dit, si c'est une question de haute sécurité nationale, à ce moment, je préfère garder la personne derrière les barreaux et ne pas le relâcher. Donc, on est dans un cercle un peu kafkaïenne où vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de la police. On vous dit que vous êtes coupable de blanchiment d'argent, mais on vous dit pas de quel document on fait référence. Mais tout est comme ça. Donc, il y a ça, il y a ces lois, et puis, c'est pas étonnant que Arvind Kejriwal soit pris pour cible, qu'il soit derrière les barreaux. Maintenant, c'est pas uniquement lui, c'est son archi-populaire ministre de l'Éducation qui a vraiment fait un sacré différence pour les écoles délabrées de Delhi. Il les a vraiment améliorées. Le peuple de Delhi est très, très content. Et effectivement, le Aam Aadmi Party, le parti de l'homme lambda, que représente Arvind Kejriwal, a les velléités de devenir un parti national. Donc, ils ont fait leur entrée dans les États de Punjab et de Haryana. C'est pas un tout petit parti régional, c'est un parti qui vraiment pose des défis au BJP et c'est pour ça qu'il est derrière les barreaux.
Arvind Kejriwal, qui est par ailleurs un ancien fonctionnaire des impôts, donc il connaît très bien le fonctionnement des impôts. Or, vous disiez qu'aujourd'hui, les contrôles fiscaux, c'est une arme du gouvernement contre l'opposition. On compte 3000 personnes à peu près dans ces partis d'opposition à Narendra Modi qui font aujourd'hui l'objet de contrôles fiscaux ou qui ont fait l'objet de contrôles fiscaux ces derniers mois. Christophe Jaffrelot, c'est nouveau ça comme technique?
Oui.
Ça veut dire que les fonctionnaires obtempèrent?
Ah bien sûr.
Ils sont obligés.
Ah bien sûr. Ah ben la fonction publique est aux ordres. Et il y a aucun doute là-dessus. Elle a perdu son indépendance, le peu qu'elle en avait, car elle n'a jamais vraiment été très, très indépendante. Mais là, elle est politisée. Alors, ce que je voulais juste ajouter, c'est que à ces coups de bâton, en quelque sorte, le BJP ajoute des carottes. Hein. On manie la carotte et le bâton. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, on fait peur à des hommes politiques en disant « Si vous avez fait ces mauvaises actions, vous allez passer derrière les barreaux. Mais si vous regagnez le BJP, si vous passez dans notre parti, là, vous êtes blanchi de tous les soupçons. » Et aujourd'hui, c'est quand même sans précédent. On évalue à 20-25%, à vérifier, le nombre de candidats du BJP qui viennent de l'opposition. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'on a un tel transfuge massif. Et ces gens qui sont populaires dans leur circonscription, qui viennent du Congrès, qui viennent de partis régionaux, on leur a fait peur en les menaçant de contrôles fiscaux, et puis on a agité la carotte en leur disant « il vous suffit d'être de notre côté pour avoir une investiture, voire un portefeuille ministériel ».
Et une promotion dans leur travail ou pas nécessairement?
Alors, en général, ils se retrouvent effectivement, à des rangs qui sont un peu supérieurs à ceux qu'ils auraient pu espérer, s'ils avaient gagné les élections, mais de toute façon, ils sont dans l'opposition, donc ils n'ont pas grand-chose à perdre.
Et Vaidjuna Ravanya, donc parfois, certains font l'objet d'un contrôle fiscal, le BJP les approche, leur propose de venir faire campagne pour leur parti, et là, ça s'arrête comme par magie.
Et le lendemain, les accusations disparaissent.
Ils vraiment, c'est vérifié.
Oui, les accusations sont retirées. Et il y a un blanchiment total de la personne. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une personne de la BJP qui a eu des contrôles fiscaux. C'est toujours dirigé vers l'opposition.
Ils ne sont quasiment jamais l'objet d'enquête, et surtout s'ils ont mis leur argent au service du BJP, parce que c'est un système de financement des partis qui a été mis en place par Narendra Modi en 2017, qui a permis pendant quelques années à des entreprises d'acheter de façon anonyme et sans plafond, sans limite, des titres auprès de la State Bank of India, reversés ensuite à des partis qu'ils souhaitaient. C'est un système anonyme finalement retoqué en février par la Cour suprême.
Les entreprises sont terrorisées à l'idée de financer des partis d'opposition. Elles craignent que leurs identités soient rendues publiques. Pourquoi devraient-elles avoir peur? Si elles veulent apporter leur soutien ouvertement à un parti, elles devraient pouvoir le faire et dire publiquement « oui, nous donnons de l'argent à ce parti ». Mais la réalité, c'est que si une entreprise veut donner de l'argent au parti du Congrès, elle va aussi en donner à d'autres partis, BJP inclus, car le BJP est au centre du jeu politique et il est le seul à pouvoir accorder des faveurs politiques aux entreprises.
Un membre de la Cour suprême indienne dont on verra tout à l'heure si elle reste une vraie institution de contre-pouvoir. En attendant, depuis 2017, Vaidjuna Ravanya, il y a eu plusieurs années pendant lesquelles ce système de financement des partis a été opérant. Est-ce qu'on sait comment cet argent privé a déjà été versé et réparti entre les différentes formations politiques, les différents partis?
Le BJP a reçu vraiment la part de lion de ces soi-disant bons. Ça opère comme des bons de trésor. Vous allez dans la banque nationalisée State Bank of India, et là vous achetez ces bons. Mais vous n'êtes pas obligé de déclarer pour qui vous les achetiez, pour quelle somme vous les achetiez et quelle était votre identité. Mais en secret, vous donnez des instructions que ces bons sont destinés à tel ou tel parti. Et le BJP a ramassé plus que 50% ou à peu près 50% à lui tout seul. Tandis qu'il y a 1000 candidats aujourd'hui qui se présentent dans des élections. Il y a une multitude de partis régionaux. Ce qui est absolument terrifiant, c'est qu'on retrouve là-dedans les noms des industries qui perdent l'argent.
Les donateurs, vous voulez dire ceux qui versent de l'argent au BJP.
Perdaient l'argent et malgré le fait qu'ils perdaient des grosses sommes, ils continuaient à donner de l'argent au BJP. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont reçu des juteux contrats pour du travail pour le gouvernement. Donc ça a été prouvé une fois que les résultats de qui a acheté quoi a été révélé. Mais moi, j'étais extraordinairement surprise et agréablement surprise que la Cour suprême ait pris cette décision de déclarer que ce système pour renflouer les coffres des partis politiques était anticonstitutionnel parce que ça ne laissait pas l'électeur informé. Il disait que l'information pour l'électeur est une des clés
voilà,
de la
que
démocratie.
C'était anonyme. Parce que
et
c'est
le fait
anonyme.
Que ça soit anonyme et qu'on ne sache pas qui a donné quoi.
C'est anonyme. On se doute que, par exemple, les entreprises du groupe de Gautam Adani, dont on parlera tout à l'heure avec Ingrid Terouat, quand on parlera des médias qui sont aujourd'hui aux mains de très proches de Narendra Modi, lui fait sans doute partie avec son groupe des donateurs. Qui d'autre, Christophe Jaffrelot, est-ce qu'on sait qui sont les plus gros contributeurs du BJP?
Oui, alors, mais ils avancent masqués hein, à travers des filiales. Cette affaire, c'est le racket du siècle. Parce que vous retrouvez la carotte et le bâton. On vous menace de contrôle fiscal. Si vous donnez, vous êtes blanchi, voire vous avez des contrats très juteux. Alors, on ne sait pas combien, au total, aura été versé au BJP. Mais on sait combien le BJP a dépensé lors des précédentes élections qui déjà reposaient sur ce système. 3,5 milliards de dollars. C'est-à-dire que le BJP a pu dépenser plus de la moitié, enfin plus du double plutôt, de toute l'opposition réunie. Alors l'argent, évidemment, ne fait pas l'élection, mais il y contribue. C'est comme le bonheur. Et en particulier en Inde, où on peut éventuellement acheter beaucoup de choses et puis surtout acheter des espaces publicitaires. C'est-à-dire que grâce à cet argent, on sature l'espace public. Les médias sociaux, les médias tout court sont complètement d'un côté et pas équilibrés dans leur couverture des campagnes électorales. Ça, l'argent y contribue. Alors, la Cour suprême a pris une très bonne décision. On sait que le gouvernement réfléchit déjà à un autre système pour remplacer ce système-là. L'argent, c'est quelque chose à quoi ils tiennent énormément. Ils en ont besoin, ils en auront. Tant qu'ils auront le pouvoir, ils tiendront la dragée haute à tous ces milliardaires. N'oublions pas que l'Inde est un des pays où il y a le plus de milliardaires au monde. Bombay est la ville où il y a le plus de milliardaires au monde aujourd'hui, ça y est. C'est comme ça qu'ils peuvent survivre à l'aise.
Avec de très très grandes différences, disparités sociales, on en parlera demain. Donc on estime qu'avec ce système de subvention, de financement, 750 millions de dollars ont échu au BJP contre 170 millions pour le Parti du Congrès. Le Parti du Congrès qui dit n'avoir plus que de l'huile de coude pour faire campagne et de bonnes semelles aussi, puisqu'ils ne peuvent plus, disent-ils, faute d'argent, prendre l'avion, prendre le train. Ils comptent sur le leader de l'opposition et du Parti du Congrès, Rahul Gandhi, dit pour porter leur voix.
Je pense que le Parti du Congrès va très bien s'en sortir pour ces prochaines élections. Je pense que le peuple va être surpris par le mouvement souterrain qui se met en place. Nous allons surprendre tout le monde.
Alors, Rahul Gandhi, qui a pris par ailleurs de l'épaisseur politique en 2022, il avait fait une très grande marche en Inde, marche pour l'unité de l'Inde, plus de 3500 kilomètres du sud au nord entre septembre 2022 et janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du socle d'électeurs de ce parti du Congrès et peut-il et de tous ces partis d'opposition qui aujourd'hui travaillent avec lui, des chances qu'il a de remporter des voix pour ces élections générales, Vaidyanathan Ravané?
Ben, pour beaucoup de gens, la question n'est pas vraiment à discuter. Ils pensent que le BJP va gagner haut la main. Mais l'électeur indien nous a surpris plusieurs fois dans le passé, surtout en 1977, quand Madame Indira Gandhi avait déclaré ouvertement un état d'urgence où tous les droits et les libertés civiles avaient été suspendus. Et quand elle est allée annoncer les élections et quand elle a tenu les élections tout en étant première ministre régnante, elle a perdu sa caution. Et elle avait, le parti du Congrès avait perdu les élections haut la main devant une coalition faite de des partis de droite, gauche, une coalition absolument improbable, hétéroclite. Donc, s'il y a ce sentiment que vraiment le parti du BJP nous a malmenés, qu'ils nous ont menti, qu'ils ont triché, ce que Rahul Gandhi essaye de dire tout le temps, il parle de l'argent disparu, où sont allés ces millions et des millions de roupies. Peut-être que l'électorat indien pourrait nous surprendre, mais le poison de la haine, de l'identité communautariste et religieuse est allé tellement loin, il est entré dans la moelle du peuple indien, que ça serait, je verrais avec difficulté, la raison dominer dans cette élection.
Donc sur l'ethno-nationalisme, cette prééminence de la religion hindoue notamment que Narendra Modi défend et tout son parti avec lui, ça a pris vraiment aujourd'hui dans la société indienne, Christophe Jaffrelot.
Oui, certainement, il y a une polarisation qui est de plus en plus forte dans le nord et l'ouest. Le sud est en train tout de même de se démarquer de façon considérable, mais le Sud ne représente pas suffisamment de sièges pour renverser la table. Non, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est le découplage que l'on rencontre chez certains et de très nombreux électeurs entre le bilan du gouvernement, le bilan du parti et l'image de l'homme. Narendra Modi apparaît au-dessus de la mêlée. Il y a un mot en anglais qui est intraduisible, c'est « accountable ». « He is not accountable ». Il ne doit pas rendre compte. Il est au-dessus de ça.
Mais parce qu'il est au-dessus tout court. Enfin, je veux dire, il est partout. On voit sa tête partout.
Et puis, il est le grand prêtre. On l'a vu lorsqu'il a inauguré le temple d'Ayodhya, de l'hindouisme, 80% des Indiens. Il est le défenseur de la nation à l'international. Vous regardez le récent sondage du CSDS, l'institut le plus fiable. La majorité des Indiens, y compris lorsqu'ils votent Congrès, considère que Narendra Modi a réussi à faire exister l'Inde sur la scène internationale mieux que quiconque avant lui. Et on le voit d'ailleurs, évidemment, dans les bras de Biden, de Macron, de Netanyahou, en boucle à la télé dès qu'il sort de chez lui. Bon, donc cette idée que, oui, l'Inde est mal gérée, oui, il y a de la corruption, oui, on a du chômage, oui, les écarts se creusent, mais lui, il est à part. Ça, c'est la seule explication valable pour comprendre ce qui fait que des États qui votent pour l'opposition lorsqu'on désigne le gouvernement régional vont voter pour lui quand on cherche à désigner le gouvernement national. Ce découplage, on l'a vu en 2019 de façon spectaculaire, il est bien possible qu'on le voit à nouveau, même si je suis tout à fait d'accord avec Vaidjou, on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, la Turquie, on n'est pas connu une surprise récente du même ordre. Il y a peut-être une atmosphère de fin de règne qui est en train de s'installer.
Donc peut-être une atmosphère de fin de règne, on verra si elle profite à l'opposition, mais en tout cas pas de concurrence en interne au sein du BJP apparemment, Vaidjou Naravane. Narendra Modi a trop personnalisé l'exercice pour qu'il ait aujourd'hui des concurrents sérieux au sein de son parti.
Absolument, et quand vous parlez aux électeurs indiens, ils ne disent pas que je vais voter pour Narendra Modi, pour le BJP, ils disent je vais voter pour Narendra Modi. Il a tellement, à tel point personnalisé le BJP, il l'a tellement bâti dans son propre image que c'est la seule personne aujourd'hui dans son gouvernement qui compte. Il a réduit tous les autres au statut de nain. On a créé une espèce de gros culte de personnalité. Il est partout. Ses photos sont partout.
Et dans les grandes gares du pays, oui, on peut se prendre en selfie avec la photo de Narendra Modi.
Les chemins de fer indiens ont reçu les ordres, aussi bien les aéroports, pour établir ce qu'on appelle les selfie points, les endroits où vous avez l'effigie de Modi et là où vous vous mettez à côté de lui pour prendre une photo à côté de votre premier ministre. Et c'est censé être votre grande fierté. Mais aussi que Modi est vu pratiquement comme un demi-dieu aujourd'hui, et il se présente comme le grand sage, il a laissé pousser sa barbe, il porte des vêtements qui sont un peu comme les gourous d'autrefois, il parle aux gens d'une manière très paternelle, je suis là pour vous sauver, je vais vous éduquer, je vais m'en occuper de vos enfants. C'est assez cynique et assez spectaculaire.
Je vais vous nourrir aussi, puisque toutes les aides alimentaires sont emballées avec des portraits de lui et puis des petits tracts qui indiquent que c'est grâce à lui que l'aide alimentaire peut être distribuée à 800 millions de personnes. Et d'ailleurs, il a annoncé la prolongation pour 5 années supplémentaires de ses programmes d'aide.
Oui. L'objectif... Ce qui est mauvais signe d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut, ouais. faut continuer à aider les gens à manger.
Ça veut dire
sinon...
qu'il ne les a pas nourris durablement.
Mais exactement.
Il n'aura pas trouvé de travail.
On a bien un problème de pauvreté de masse. Mmh. 800 millions de personnes vivant de l'aide alimentaire. Mmh. C'est énorme.
L'objectif pour le BJP aujourd'hui, c'est pas seulement de remporter le scrutin pour offrir un troisième mandat à Narendra Modi. Il y avait véritablement un enjeu à remporter le plus de sièges possible au Parlement, la Chambre basse, puisque si le BJP obtient les 2/3 de la Chambre basse, il sera en position pour réformer la Constitution indienne. Est-ce que Narendra Modi le dit ouvertement d'abord qu'il veut réformer la Constitution, et quel est l'enjeu de cette modification de Constitution, Christophe Jaffrelot ?
Il avance masqué, bien sûr.
Encore ?
Ah oui. Oui, au sens figuré cette fois-ci, parce qu'on sait qu'il distribue des masques à son effigie, à qui veut les porter. Hein. Non, il avance masqué parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui pourrait inquiéter beaucoup de gens. Mais c'est bien l'objectif. Transformer l'essai, créer la Seconde République, atteindre le point de non-retour, de sorte que lorsqu'il quitte la scène, et ça finira par arriver, l'effet de cliquet joue à plein. Alors qu'est-ce qu'il peut essayer de changer ? D'abord, il va enlever le mot sécularisme de la Constitution, parce que c'est quand même, pour tout contrôle de constitutionnalité, une épine dans le pied potentiellement.
Lui, il pense que la religion hindoue définit l'identité indienne, c'est vraiment son leitmotiv.
Exactement, ils veulent créer ce Hindu Rashtra, cet état-nation hindou, et donc faire ce qui s'est passé à Sri Lanka, ce qui s'est passé au Pakistan bien avant, créer une religion officielle, en tout cas... pas le sécularisme, hein, ce qui serait l'équivalent de la laïcité. Alors, il y a des articles dans la Constitution qui, justement, étayent ce sécularisme. Il y a des articles qui définissent et qui défendent les minorités. Ceux-ci seront amendés aussi, de manière à ce qu'il n'y ait pas de subventions étatiques pour les écoles des minorités religieuses ou linguistiques. La langue, d'ailleurs, est un autre de leurs grands enjeux. Promouvoir le hindi. Faire que on ait une nation qui ne parle qu'une seule langue, ce qui d'ailleurs aura des effets encore repoussoirs sur le Sud. Et puis le fédéralisme en général est un grand problème. Ces gens ont une vision unitaire de la nation. Ils veulent pas de ce fédéralisme qui donne tellement de pouvoir aux États fédérés. Et aujourd'hui, je l'ai dit, le Sud est en réaction. Aucun des États du Sud n'a un gouvernement BJP. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh... 5 États de la péninsule du Sud ont rejeté le BJP. Donc, on va sans doute avoir, si jamais cette révision passe, si jamais ils ont les 400 voix, s'ils vont aussi loin, une atmosphère de guerre civile. Et je pèse mes mots parce que le Sud est véritablement maintenant en réaction. Alors, pour des raisons culturelles, la langue, etc., mais pour des raisons économiques. Le niveau de vie est bien plus élevé dans le Sud. Le Sud paye pour le Nord. Et en plus de ça, il est prévu de réduire le nombre de sièges, le nombre de circonscriptions, que le Sud aura relativement par rapport au Nord. Parce que c'est un peu technique, mais c'est important. En 1977, on a décidé de geler les circonscriptions en fonction du nombre d'habitants. De sorte que ceux qui ne faisaient pas de planning familial ne soient pas récompensés et aient plus de sièges. Là, on va dégeler cette règle. Comme la démographie du Nord est galopante par rapport à celle du Sud, on va avoir un nombre de députés du Nord bien supérieur à celui du Sud, et le Sud va se retrouver marginalisé alors qu'il paye pour le Nord.
Vaidjun Narvane.
En fait, il y a un débat en Inde et les États du Sud commencent à lever leur voix. Et qui est un petit peu comme le débat qu'on a eu en Italie avec la Lega Nord qui dit aux Siciliens et les gens du Nord, la riche partie Nord de l'Italie qui disent « Vous, les indolents du Sud, vous contribuez rien à l'économie et nous vous subventionnons avec nos taxes ». Ce que disent les États du Sud, c'est qu'on s'est développé, on a contrôlé notre population, on a des indicateurs de santé et d'emploi et de bien-être de notre population qui est bien supérieur au Nord, parce qu'en Uttar Pradesh, les indicateurs de santé sont aussi mauvais que la Mauritanie ou les pays les plus pauvres d'Afrique. Alors le contraste entre le Sud et le Nord est énorme, mais le Sud paye beaucoup, beaucoup des taxes. Et la redistribution fait que la plupart de ces taxes sont distribuées au nord parce qu'il y a plus de bouches à nourrir. Donc il dit c'est un double whammy, on est doublement puni. On fait l'effort pour développer, on fait l'effort pour contrôler notre population et en plus on perd des sièges au Parlement et on donne notre argent à ces gens du Nord qui sont beaucoup plus corrompus que nous.
Donc quand Christophe Jaffrelot, vous évoquez une guerre civile qui pourrait, c'est ça, une atmosphère de guerre civile, est-ce que vous parlez de cette ambiance presque en mode guerre de sécession quoi, entre le Nord et le Sud, ou de ces ambiances de lynchage qu'on a pu observer ces années précédentes entre fanatistes hindous et musulmans? Il y en a eu notamment encore récemment quand la réforme de la loi sur la citoyenneté a introduit un critère religieux pour obtenir la nationalité et donc mis de côté 200 millions de musulmans. Est-ce que ces lynchages ont toujours cours? Est-ce que c'est ce dont vous parlez?
Non, je parle effectivement d'une atmosphère de guerre civile qui se traduirait notamment par de l'obstruction au Parlement, un refus de jouer le jeu, le refus aussi de laisser les instances nationales opérer sur le territoire des États. Par exemple, le Central Bureau of Investigation, le CBI, l'équivalent indien du FBI, ne peut pas opérer dans un territoire fédéré sans l'autorisation de l'État en question. Voilà ce genre d'attitude qu'on va pouvoir se voir. On les voit déjà, hein, mais ça pourrait devenir systématique. Dans les lynchages dont vous parlez, là, ils sont physiques, effectivement, et oui, ils continuent. C'est-à-dire qu'en fait, on a maintenant une espèce de routinisation de ce qu'on appelle en Inde le vigilantisme. Ce sont des groupes, les vigilantes, qui font la police culturelle. Alors, vis-à-vis des musulmans, qu'on accuse de flirter avec de jeunes hindous pour les convertir, les épouser. C'est aussi les fermiers musulmans qui sont accusés d'amener des bovins à l'abattoir quand en fait ils les ramènent de la foire dans leur ferme. Mais les vigilantistes patrouillent sur les autoroutes, arrêtent les camions et lynchent les chauffeurs. Maintenant, ça c'est quelque chose de très important. C'est devenu très systématique. Et ça nous amène à nous demander si par hasard il y avait une alternance au pouvoir, ce que ça changerait vraiment pour les musulmans sur le terrain.
Oui, parce que est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'alliance d'opposition un discours qui s'oppose au nationalisme hindou, à l'Hindutva, Vaidjun Narvane, ou pas? Parce qu'on a l'impression que même cet opposant dont on parlait tout à l'heure, qui est derrière les barreaux aujourd'hui, dit qu'il faut un soft Hindutva. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, le Hindutva semble devenu pour beaucoup de gens un discours normal, entre guillemets. Et un des points forts de la narrative de Narendra Modi, c'est que j'ai rendu la virilité aux hindous. Les hindous qui avaient été conquis par les musulmans et ensuite par les anglais, et ils parlent toujours de 1000 années d'esclavage. En fait, il n'y a pas eu 1000 années d'esclavage, il y a eu des conquêtes, il y a eu des bons rois moghols et les mauvais rois moghols, certains qui ont persécuté les majorités hindoues, d'autres qui ont essayé de créer des religions d'amalgame et de synthèse. Et pour lui, non, les Anglais, on les a chassés, mais les musulmans sont restés. Et c'est pour lui l'épine dans la chair des Indiens que lui, il a rendu l'hindou qui a été considéré faible et efféminé, il l'a rendu militant, agressif et beaucoup plus masculin. Mais l'autre truc, c'est que la chrétienté et l'islam sont des religions qui sont nées à l'étranger. Donc, ce sont, en effet, pour le BJP, les gens qui sont étrangers. Et donc, ça devient le other, l'autre.
Et donc, un tout petit mot pour conclure cette première partie, Christophe Jaffrelot, les minorités aujourd'hui en Inde représentent 20% de la population. Est-ce qu'on peut imaginer que toutes vont voter pour l'opposition? Ou c'est plus compliqué que ça?
C'est un tout petit peu plus compliqué, mais à peine, hein, parce que les musulmans, on le sait, il n'y a guère que 6 à 7% de musulmans qui votent pour le BJP, mais pour des raisons locales. Les sikhs, le gouvernement se les a aliénés, parce que beaucoup de sikhs sont fermiers. Et le mouvement de protestation des fermiers d'il y a quelques années est reparti à la hausse au Punjab, en Haryana, là où sont les sikhs. Les chrétiens, ben, ceux qui sont dans le sud, au Kerala notamment, ils sont très nombreux, ne votent pas BJP. On peut penser qu'effectivement, alors il y a ces 20%, et puis il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé, mais c'est la caste. C'est pas comme si toutes les castes se retrouvaient comme un seul homme derrière le BJP. Le BJP est un parti de haute caste qui impose une orthopraxie, hein, des règles de comportement qui sont de type brahmanique. Et il y a toujours, chez les basses castes, alors là c'est pas 1000 ans d'esclavage, hein, c'est des milliers d'années d'esclavage, de ressentiment qui les poussent vers des partis d'opposition.
Et on en parlera plus spécifiquement demain d'ailleurs de cette question des castes et la question sociale, les classes moyennes qui pensaient bénéficier de la croissance. Classe moyenne, d'ailleurs c'est un peu vite dit en Inde, mais on aura l'occasion de développer tout ça en détail demain. On va d'abord parler de la façon dont les médias ne sont plus les contre-pouvoirs qu'ils ont longtemps été en Inde, avec Ingrid Terwatt qui vient d'entrer dans ce studio. Ce sera juste après le chanteur Bappi Lahiri, qui lui aussi a été un candidat du BJP. Bappi Lahiri, chanteur indien, cette chanson de 1982 qui est un extrait de la bande originale du film Disco Dancer. Ce chanteur, il est mort il y a 2 ans. Il a connu le succès à partir des années 70. On l'appelait le roi du disco. Il a fait de nombreuses bandes originales de films et en 2014, il s'est présenté aux législatives sous la bannière du BJP. Cette fois-ci, sans succès. Peut-être aurait-il eu davantage de chance 10 ans plus tard, cette année, pour les élections législatives que le parti du Premier ministre a totalement investi. Nous sommes avec nos invités Vaidju Naravané et Christophe Jaffrelot pour parler du parti État qui est devenu le BJP, qui a investi les institutions mais aussi les médias.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Qui en Inde pour porter encore une voix critique contre le pouvoir quel qu'il soit? Depuis l'élection de Narendra Modi, le secteur de la presse est de plus en plus concentré entre les mains d'une poignée de milliardaires, tous très proches du BJP. Et à la fin de l'année 2022, l'homme d'affaires Gautam Adani a racheté la dernière grande chaîne indépendante du pays, la New Delhi Television, entraînant la démission de ses journalistes les uns après les autres.
Comment accepter de travailler avec un homme d'affaires qui a des liens avec le gouvernement? Nous verrons ce qu'ils vont choisir de cacher aux téléspectateurs, ce qu'ils vont censurer et surtout comment ils vont remplacer le contenu à leur manière. Je pense qu'un nouveau média pro-gouvernement va voir le jour. Si des personnes manifestent contre Adani, est-ce que les journalistes qui couvraient ces événements auparavant seront autorisés à le faire à nouveau ?
Bonjour Ingrid Terwatt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Courrier International, spécialiste de l'Inde. Combien sont-ils de journalistes qui, comme celui-ci, Ravish Kumar, ont préféré quitter la New Delhi Television plutôt que d'être salariés de Gautam Adani, son propriétaire?
C'est quasiment l'ensemble de la rédaction qui est partie. Fin de contrat, démission, les effectifs se sont vidés pour une chaîne qui est l'équivalent pour l'Inde de CNN, si vous voulez. C'est une chaîne d'information 24 heures sur 24 qui était très critique et qui, depuis sa reprise en main, ou sa prise en main, ne peut plus du tout l'être. Son propriétaire a été un peu dans la tourmente avec une affaire de corruption, et les journalistes, les nouveaux journalistes, ont été interdits de traiter ce sujet. Donc on voit qu'il y a une mise au pas. Alors là, il s'agissait des intérêts du propriétaire, mais il en va de même quand il s'agit des intérêts du régime, puisque Gautam Adani, le nouveau propriétaire de NDTV, est très proche de Narendra Modi. Il vient de la même région, le Gujarat, et ils se sont fait la courte échelle, l'un ayant intérêt au pouvoir de l'autre. C'est la même chose avec un autre mania des médias, Mukesh Ambani, qui possède 300 médias à peu près, qui sont consultés par 800, qui touchent 800 millions d'Indiens.
Dont des journaux d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des chaînes de télévision, c'est le cas aussi de la presse écrite.
Presse écrite, radio, télévision, agences de presse, maisons de production audiovisuelle, ça touche absolument tous les secteurs de l'image et de l'information. Donc c'est une mainmise totale, une captation oligarchique, pour reprendre les mots de Reporters sans frontières. D'ailleurs, on parle pour l'économie indienne tout entière, bien au-delà du secteur des médias, d'une économie notée AA. Alors, c'est pas la note Standard & Poor's ou Moody's, c'est...
Sur la dette.
Oui, la note AA, c'est Ambani Advani. Finalement, ces deux hommes, ces deux Gujaratis, ces deux proches de Modi, ont, à eux deux, mis la main sur l'économie indienne. Ils représentent à eux deux 4% du produit intérieur brut, 25% des investissements en Inde, et leur valorisation a été multipliée par 4 ces 4 dernières années.
Ils n'ont pas le même profil, ces deux hommes d'affaires, puisqu'il y en a un qui est héritier, Mukesh Ambani, Gautam Adani, lui qui, je précise, n'est pas hindou. C'est important puisqu'on parlait... Enfin, c'est important. En Inde, c'est important de mentionner, me semble-t-il, la religion pour voir si elle a une influence ou pas dans l'élévation sociale et politique de ceux qui la pratiquent. Donc lui, il n'est pas hindou, mais de confession jaïne, qui s'est détaché de l'hindouisme. Je ne sais pas si par ailleurs il en fait vraiment état et la publicité, mais lui, c'est un fils de négociant en textile du Gujarat, donc même état que Modi, dans une fratrie de 8, et ce n'était pas vraiment une évidence pour lui de se lancer dans la presse. Il me semble plutôt que c'était le seul domaine où il n'avait pas investi son argent jusque-là.
D'ailleurs, il ne parle pas de ce rachat de NDTV comme d'un investissement, il en parle comme d'une responsabilité. Pour lui, il ne s'agit pas d'une décision de businessman, mais d'une décision vraiment idéologique. Ça, c'est pour Adani et Ambani. De la même façon, a dit lors d'un grand meeting annuel de son groupe que son inspiration et son moteur, c'était le patriotisme. Donc vous voyez que derrière les enjeux financiers, économiques, il y a aussi, avec le parti de Narendra Modi, une convergence d'intérêts idéologiques.
Ils sont quand même prononcés sur la question de la liberté de la presse. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont au moins officiellement dit qu'ils laisseraient les journalistes traiter des sujets qu'ils veulent et de la façon dont ils le veulent?
Comme certains patrons de presse industriels en France, alors on fait état évidemment de son attachement à la liberté d'expression. Pour autant, les grandes déclarations n'engagent que ceux qui les croient. On a pu constater des intimidations de journalistes. On a empêché les rédactions de traiter certains sujets. India Today, pour prendre un autre exemple que celui de NDTV, a aussi été mis aux ordres d'une certaine façon, empêché de travailler. Il n'y a pas vraiment d'attachement à la liberté d'expression. Il y a juste un attachement à la liberté d'une certaine forme d'expression pro-pouvoir. C'est tout. Et il y a d'une part cette mainmise d'oligarches sur les médias et d'autre part des attaques systématiques contre les médias indépendants.
Contre les médias indépendants et contre les journalistes personnellement, puisque Human Rights Watch et Reporters sans frontières que vous citiez tout à l'heure ont dénoncé récemment des cas d'intimidation de journalistes, de censure, voire de violence, d'arrestation. Qui ? Par qui ? Pourquoi ?
Alors le phénomène n'est pas récent, mais on peut... Un tournant s'est produit en 2017 avec l'assassinat de la journaliste Gauri Lankesh, qui enquêtait sur l'Hindutva, qui était très critique sur cette idéologie brahmanique du Nord. Elle était dans le sud de l'Inde. Elle a été assassinée par deux tueurs à moto. Et on sait maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes, qu'elle a été assassinée à cause de ses positions politiques et de son travail de journaliste. Depuis, les journalistes sont de plus en plus fréquemment harcelés. Il y a des raids policiers. Par exemple, 46 journalistes du site NewsClick, un site indépendant, ont vu leur domicile perquisitionné, leurs ordinateurs portables, téléphones saisis. Les propriétaires de The Caravan, de bien d'autres titres aussi, The Wire. Pour qui travaille Vejuna Ravane, ont subi des perquisitions, des contrôles fiscaux. Il y a un harcèlement policier et administratif. Donc voilà, il y a une censure aussi avec la remise au goût du jour de lois antiterroristes et de lois anti-sédition qui datent de l'époque coloniale et qui sont utilisées comme des outils en fait pour limiter la liberté d'expression.
Et une loi sur les technologies de l'information et des règles informatiques aussi qui date d'il y a 3 ans, oui. Et qui semble-t-il a restreint le champ de liberté d'expression.
Qui a restreint le champ de liberté d'expression pour les journalistes bien sûr, mais pour l'ensemble de la population qui peut se retrouver au commissariat. À cause d'un tweet. L'Inde est le pays au monde, bien loin devant la Chine, la Russie, etc., qui émet le plus de requêtes auprès de Google pour avoir des informations personnelles. Donc il y a un climat tout à fait liberticide sur le plan de l'expression et de la liberté d'informer. Donc il y a une censure, une intimidation, mais il y a aussi une autocensure et puis une pression sur les journalistes étrangers, parce qu'il y a de nombreux journalistes étrangers en Inde, des pressions telles que parfois ils sont chassés du pays, amenés à quitter le pays parce que les pressions sont trop fortes. Ça a été le cas de notre consoeur Vanessa Douniac assez récemment. Il y a une pression aussi sur les journalistes étrangers d'origine indienne qui bénéficient d'un visa spécial en tant que personne d'origine indienne de la diaspora. Et ce visa spécial devient un outil de surveillance, de contrôle et de pression pour les faire taire.
Et des journalistes indiens de confession musulmane aussi. Enfin, beaucoup disent être particulièrement visés.
Oui, bien sûr, et notamment ceux qui sont au Cachemire. Et encore plus qu'ailleurs dans le pays.
Le Cachemire, dont le gouvernement a révoqué le statut spécial d'autonomie en août 2019 et l'a divisé en deux territoires gouvernés par l'État fédéral. Et c'est une région qui est toujours sous cloche. Peut-être un mot, Vaidjuna Ravane, pour réagir à ce que disait Ingrid Terwatt. Vous travaillez pour le média indépendant The Wire. Oui. Dans quelle mesure aujourd'hui ce média peut continuer à travailler en Inde et que comment vous avez... Est-ce que vous avez fait le choix de travailler en France pour ça ou pas du tout?
Mais écoutez, quand j'écris, moi, je ne suis pas censurée par mon média. Par contre, moi, j'ai eu une enquête financière. Et pendant plus qu'une année, j'étais harcelée par les autorités des revenus en Inde en disant que vous n'avez pas fait bien votre déclaration, on a trouvé ça, et finalement...
Ça vous prend tellement de temps, vous ne pouvez pas travailler.
Parce que je n'ai pas... des choses en Inde, je possède rien en fait. C'est ça qui m'a sauvée. Mais ils sont allés dans les bureaux de Wire, ils ont perquisitionné chez notre rédacteur en chef et les rédacteurs fondateurs. Les téléphones ont été pris, le matériel informatique a été pris. Ça fait plus que 4 ans que ça s'est passé, 3 ans qui s'est passé, on n'a toujours pas retrouvé les choses. Donc, les références à des différentes personnes, à les adresses, toutes les sources, les documents de sources sont partis avec ces choses. En plus, on a mis sous surveillance des téléphones avec ce fameux outil de surveillance développé par les Israéliens qui s'appelle Pegasus.
Il y avait 5 journalistes.
Il a été retrouvé sur beaucoup de nos rédacteurs.
Le logiciel espion dont on a parlé jeudi dernier d'ailleurs. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous dans cette émission. Le premier épisode de notre série consacrée à l'Inde à l'aune des élections qui commencent vendredi. Merci Vaidjuna Ravane, journaliste pour The Wire, donc média indépendant indien. Merci Ingrid Terwatt, journaliste pour Courrier International, spécialiste de l'Inde. Et merci Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS et au CERIS Sciences Po. Vous avez écrit L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique, qui est apparu chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. C'est Laura Dulieu qui présente la revue de presse ce matin et vous nous parlez de cette fausse information qui a circulé en Australie peu après l'attaque au couteau qui a fait 7 morts samedi dans un centre commercial de Sydney.
Attaque dont l'auteur a été abattu par une policière et qui a été depuis formellement identifiée. Il s'agit de Joel Cochi, un homme de 40 ans, originaire du Queensland. Il souffrait de troubles mentaux et la piste terroriste a été totalement écartée par la police. Seulement voilà, avant la confirmation de l'identité de l'assaillant par les autorités, c'est le nom de Benjamin Cohen qui a circulé dès samedi soir, notamment sur X, avec des captures d'écran de ses comptes sur les réseaux sociaux, au point d'être repris par l'une des principale chaîne d'information australienne, 7 News. Le titre et la légende de l'une de ses vidéos sur l'attaque mentionnaient Benjamin Cohen, attaquant solitaire de 40 ans. La vidéo est restée en ligne plus d'une heure sur la chaîne YouTube du média, suivie par plus d'1 600 000 abonnés, avant d'être supprimée, mais des milliers d'internautes ont eu le temps de la voir. Sauf que Benjamin Cohen est un jeune homme de 20 ans, étudiant à l'université de Sydney. Il affirme aux médias The Australian avoir été inondé de messages tout le week-end.
Extremely disappointing to me to see people mindlessly propagating misinformation like this without even the slightest thought put into fact-checking.
C'est vraiment décevant de voir des gens propager inconsciemment de fausses informations sans même songer à faire la moindre vérification. Mais ce qui est encore plus décevant, dit l'étudiant aux médias The Australian, c'est de voir l'une des principales chaînes d'information faire ça, utiliser mon nom sans attendre une déclaration de la police pour vérifier ou même essayer de vérifier par eux-mêmes. Tout cet incident a été très décevant et stressant pour moi et pour ma famille, dit-il. On apprend d'ailleurs dans le Brisbane Times que son père a pressé la police australienne de révéler l'identité, la vraie, du tueur pour stopper la circulation de cette fausse information. 7 News a depuis présenté des excuses en plaidant sans plus de détails l'erreur humaine. Le Guardian retrace l'itinéraire de cette erreur humaine qui trouve sa source via plusieurs comptes certifiés sur X, l'ancien Twitter, certains avec plus d'1 700 000 abonnés. Et d'autres, détaille le journal, adeptes de commentaires antisémites. Le nom de Benjamin Cohen s'est également répandu sur Telegram, poursuit le quotidien britannique, où des comptes d'extrême droite australiens se sont empressés de relayer de fausses allégations selon lesquelles l'auteur de l'attaque était d'abord musulman, puis finalement juif. En fait, comme souvent dans ce genre de situation très confuse pendant les premières heures, la circulation de fausses allégations est désormais systématique. Esther Chan, une chercheuse spécialiste de la désinformation, rappelle, toujours dans le Guardian, que les commentaires islamophobes et anti-immigrés se sont multipliés dans les heures qui ont suivi l'attaque, et ce, bien au-delà de l'Australie. Une présentatrice de la chaîne britannique Talk TV a par exemple affirmé que l'agresseur était un terroriste islamiste avant de se rétracter. Et c'est là tout le but des comptes d'extrême droite, inonder les réseaux de discours racistes avant la publication d'informations officielles. Le Guardian cite le travail d'un groupe de recherche qui a tracer les nombreuses affirmations trompeuses autour de l'attaque de Sydney ce week-end. Selon eux, la désinformation sur X est récompensée dans la mesure où la première histoire qui sort est souvent celle qui reste dans la tête des gens.
Une autre fausse information, Laura, une rumeur qui a circulé parmi les habitants de Gaza ce week-end.
Oui, c'est le site RTE, la radio et télévision publique irlandaise, qui s'en fait l'écho et qui raconte que des milliers de Gazaouis ont envahi hier la route côtière vers le nord de Gaza, la route Al-Rachid, après avoir appris que plusieurs personnes auraient réussi à franchir un point de contrôle fermé en direction de Gazaville. Vous entendez là une vidéo publiée par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. On y voit la foule qui se dirige vers le nord, visée par des tirs. Selon l'agence de presse turque Anadolu, au moins 5 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés par des bombes israéliennes alors qu'ils tentaient de regagner leur foyer dans le nord de l'enclave. Or, l'un des porte-paroles de l'armée israélienne a fini par affirmer, je cite, que les informations selon lesquelles les forces de l'armée israélienne autorisent le retour de la population palestinienne dans la zone nord de la bande de Gaza sont des rumeurs fausses et totalement infondées. RTE précise que malgré le démenti de l'armée, les rumeurs ont continué à circuler selon lesquelles les soldats israéliens laisseraient passer les femmes, les enfants et les hommes de plus de 50 ans vers le nord. 1,5 million de Palestiniens s'entassent toujours à Rafah dans l'extrême sud de l'enclave selon les Nations Unies. Or, ils craignent l'assaut annoncé par Israël sur cette ville frontalière avec l'Égypte. Beaucoup cherchent donc à regagner le nord. Mais si Israël a retiré l'essentiel de ses troupes au sol en attendant cet assaut, les bombardements aériens, eux, se poursuivent.
Merci beaucoup, Laura Dulieu.